Bonsoir. Environ 105 personnes ont été tuées dans les territoires d'Irumu, Anituri et Beni, au Nord Kivu, en l'espace de 5 jours. Bilan des attaques attribuées aux ADF et aux hommes armés non identifiés. On compte aussi plusieurs blessés enlevés, ainsi que des maisons et des véhicules incendiés lors de ces attaques. Dans la même période, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, et celui des FRDC Anituri ont annoncé la neutralisation de près d'une soixantaine d'éléments des différents groupes armés et la requête de plus de 20 localités depuis l'instauration de l'état de siège dans ces deux provinces. Et toujours au cours de ce même état de siège, il a été constaté une série de redditions de miliciens dans certaines localités du Nord et du Sud Kivu. Quel bilan dressé de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri à presque un mois depuis son instauration dans ces deux provinces? Qu'est-ce qui explique la poursuite des massacres malgré l'état de siège? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec un casting uniquement d'experts ce soir. Jacques Joly, professeur d'université, député national et ancien vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi Casimir Ngoubi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Dimaté.
Dona Madimba, pour ce soir, vous êtes politologue et expert dans les domaines de violence politique et des groupes armés. Et enfin, Chobert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Chobert Agenonga, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Commençons par Beni, dans le Nord Kivu. Les rebelles ougandais de l'ADF ont multiplié leurs attaques depuis quelques jours contre des civils dans le secteur de Rwenzori. Le bilan dressé par la société civile fait état d'une cinquantaine de civils tués et plusieurs maisons incendiées en une semaine. Le commandant des opérations Sokola 1, lui, rassure les habitants que les dispositions sont prises pour les protéger. Récit de Martial Papi Mukeba.
Ce sont les villages de Kisima Butotolia, Maboule, Mihende, Kinyati, Libokora et Kibanda dans les secteurs de Rwenzori qui ont été attaqués par les ADF ces derniers jours. Les sources de la société civile parlent d'au moins 50 civils tués à l'intervalle d'une semaine. Le général Peter Chirimwami, commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, qui est arrivé dimanche dans la région Rassir.
Nous avions essayé de réarticuler nos hommes. Il y a des opérations en cours. Je ne sais pas tout révéler micro, mais je sais que les dispositions sont prises pour arrêter cette recrudescence de massacres.
Quant aux allégations accusant certains militaires FRDC d'être impliqués dans ces tueries dans les secteurs de Rwenzori, le général Peter Chirimwami répond.
Ça c'est l'intox. Il n'y a aucune autorité militaire, aucun président, aucun chef d'état-major général qui peut armer ses hommes contre sa propre population.
Selon des sources sécuritaires, les FRDC renforcent leur position dans les secteur de Rwenzori et exercerait leurs opérations dans les alentours du parc national de Virunga. Pour sa part, la MONUSCO, à travers les chefs des bureaux intérimaires, souligne que des dispositions sont prises avec l'arrivée des forces d'intervention rapide pour appuyer les FRDC et faire face à la situation. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Ituri, à présent, environ 55 personnes ont été, elles, tuées et plusieurs autres blessées et enlevées dans une double attaque dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés non identifiés à Boga et Tchabi. C'est à environ 100 km au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu. La société civile dénonce. Isaac Remoyope.
C'est vers 23h que les habitants de Boga et Tchabi ont été réveillés par des tirs nourris d'armes. À Boga, ces inciviques ont envahi les sites de déplacés des Rovinga qui hébergent plus de 200 ménages qui ont fui les exactions des rebelles ADF à Tchabi. Selon la cité civile, ils ont ouvert les feux sur les personnes déplacées. Bilan provisoire, 34 morts, 6 véhicules et 3 maisons incendiées. Parmi les victimes, il y a les présidents des jeunes de Boga, dont les membres des familles ont été pris en otage par ces malfrats. À Tchabi, un autre groupe de ces hommes armés a fait incursion à Banzili, au centre de Tchabi, dans la chefferie qui porte le même nom, toujours aussi d'Irumu. La cité civile locale a rapporté que 21 personnes ont été abattues, dont les corps gisent encore au sol. Une dizaine de personnes ont été également amenées dans la brousse. Des sources concordantes rapportent que plus de 45 personnes ont été également blessées dans cette double attaque qui a entraîné le déplacement de la population locale. L'armée a promis de se prononcer dans les prochaines heures. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Jacques Joly, professeur d'université, député national et ancien vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat, à près de 3 semaines de l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, quel bilan tirez-vous à ce stade?
Merci beaucoup Monsieur Dona et bonjour à tous nos compatriotes avec qui nous allons essayer de partager sur cette situation dramatique. C'est vrai que l'état d'urgence a été proclamé ou décrété il y a plus ou moins 3 semaines, mais s'il faut faire un bilan, je ne sais pas s'il faut le faire, parce que nous avons en face de nous une situation de pourriture ou même de fragmentation d'un conflit qui dure depuis plus de 20 ans. Nous avons en face de nous plus ou moins 140 groupes non identifiés et qui mutent à tout moment. Alors, face à cela, le pouvoir public a estimé qu'il fallait une réponse. La réponse de proclamation de l'état d'urgence ou d'état de siège sont des régimes de gestion des crises prévus par la Constitution. Donc, il s'agit des questions tout simplement de posture constitutionnelle et juridique. Maintenant, il faut voir à l'intérieur de cette enveloppe juridique quelle est la réponse militaire qui est donnée. C'est là où est le problème. Est-ce qu'en proclamant l'état d'urgence, la réponse militaire a été préparée avant ou apparemment les dispositions sont en train de prendre d'être prises? Parce que l'état d'urgence, comme j'ai dit, c'est une posture juridique constitutionnelle prévu par l'article 85. Maintenant, les contenus militaires, quel est le schéma opérationnel, les dispositifs pratiques et autres qui sont mis à ce stade, nous n'avons peut-être pas d'éléments, mais apparemment, il y a eu désignation de 2 gouverneurs militaires, ce qui est prévu, n'est-ce pas, par la Constitution, donc la substitution des autorités civiles par les autorités militaires. Maintenant, est-ce que l'aménagement ou l'articulation ou les dispositifs militaires a changé? Je ne crois pas, parce que il a été nommé 2 gouverneurs. Il y a une semaine, on a nommé les maires et les autres autorités administratives. Maintenant, il y a eu encore cette histoire de volcan qui est arrivé, ce qui éloigne la nouvelle autorité politico-administrative de la mission principale qui est d'attaquer le cœur du système d'insécurité qui est à Beni et pour se concentrer sur les problèmes d'urgence sanitaire et autres à Goma. La même chose au nord qui à Ituri. Je puis entendre que les avions sont en train d'arriver. Je crois que après 30 jours, s'il faut faire un bilan, c'est de dire que oui, on est en train de mettre en place un dispositif administratif, mais il faudra, n'est-ce pas, travailler davantage sur les dispositifs militaires, parce que l'état des sièges n'a pas pour but d'avoir une approche purement administrative, de mobilisation des recettes. Je crois que cette tâche est importante, mais la tâche prioritaire, c'est la construction d'un schéma stratégique, tactique et opérationnel pour éradiquer, n'est-ce pas, cette gangrène qui, n'est-ce pas, nous prive de paix et le nombre de morts continue à croître, il est important que les dispositifs stratégiques du type militaire soient mieux articulés. Il faut une cohérence entre les troupes qu'il faut reconditionner, les troupes qu'il faut faire venir des autres éléments, notamment la MONUSCO, et la coordination des appuis. Pour le moment, je crois qu'on est encore dans le dans la phase d'initialisation.
Alors, Jacques Joly, nous avons l'impression que nous l'avons perdu en cours d'émission. Nous allons essayer de le récupérer entre-temps. Kazmir Ngoumbi, politologue et expert dans les domaines de violence politique et des groupes armés, en attendant de pouvoir récupérer Jacques Joly pour qu'il puisse être relancé sur les préoccupations que nous étions en train de lui soumettre. Faites-vous, à votre niveau, le même constat que Jacques Joly? Sommes-nous encore dans une étape d'installation du dispositif de l'état de siège, ou pouvons-nous considérer que presque un mois après, l'état de siège a peut-être déjà installé tout le dispositif qu'il fallait et en pleine phase d'exécution?
Les FARDC ont déjà lancé leur attaque contre les groupes armés. Les choses ont commencé parce qu'on a des informations. On sait déjà qu'ils évoluent. Quand vous prenez 23 semaines sur 30 jours, nous sommes donc à 75% du point de vue de la ressource temps, que déjà les FARDC ont lancé leur offensive, et qu'il y a des parts et d'autres de résultats en termes de mort, en termes d'avancée. Je crois que je ne doute aucun instant pour considérer que les résultats semblent mitigés aujourd'hui. Les résultats sont mitigés parce que lorsque je parlais pour la première fois, j'avais dit que si en amont rien n'avait été préparé, j'avais beaucoup d'inquiétudes pour cela. Et quand je parlais de l'amont, je pensais à beaucoup de choses. Vous savez, pour traquer mon collègue, le professeur Jacques Joly, que j'aime beaucoup, à parler de 20 ans, moi je voudrais aller plus loin, monsieur le journaliste. Regardez, nous sommes en 1951, pendant la colonisation. Les organisations sionistes sont installées à l'Ouganda, avec beaucoup de millions de juifs. Ce qui fait que l'Ouganda, comme les pays anglophones de l'autre côté, n'est-ce pas, ont déjà estimé leur hospitalité de juifs, ou qui dit juifs, des États-Unis. Et donc, ces alliances se sont tellement enracinées pendant plusieurs décennies qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier cette donnée géopolitique. Ça signifie tout simplement qu'il y a trois types d'approches que nous devions utiliser. Il y a d'abord l'approche en long terme, c'est-à-dire nous aussi, nous devons chercher comment nous enraciner par rapport aux alliances. Ça, c'est au niveau de l'approche à long terme. Mais au niveau de l'approche à court terme, disons, moyen terme, nous devions nous préparer conséquemment pour savoir exactement ce que nous pouvons faire dans un contexte de travail d'identification.
Kazmir Ngoumbi, mais lorsque la Constitution prévoit que l'état de siège, dans sa première phase, doit prendre 30 jours et renouvelable si cela est nécessaire, est-ce que le constituant ne savait pas que le dispositif allait être lourd à mettre en place, qu'il allait falloir un certain nombre de jours pour être plus efficace et sans doute plus opérationnel avant de vraiment commencer à faire un bilan? Pourquoi le constituant, selon vous, n'a pas prévu une durée un peu plus longue? Ça aurait pu être possible, non?
Écoutez, le juridique, c'est beau, c'est bien beau. Mais savez-vous que, monsieur le journaliste, le politique doit tenir le juridique à l'état. C'est bien beau que les textes le prévoient, mais politiquement, et sur le plan de nos relations avec les pays voisins, sur le plan de nos relations avec les grandes puissances de ce monde, pensez-vous qu'en 30 jours, si on n'a pas tenu compte de cette approche? Parce qu'au fait, j'ai dit bien qu'il fallait aussi compter avec l'approche à long terme, l'approche à moyen terme, mais par rapport au rapport avec la connaissance ou les travaux d'identification. Je voulais même poser la question ou les questions qu'il faut par rapport à l'approche à moyen terme. Qui opère l'aide de la RDC? N'est-ce pas? Avec l'aide de qui? Depuis quelle période?
Casimir Ngoumbi.
Qui cherche-t-il?
Casimir Ngoumbi, on a.
Qui sont les alliés internes et externes?
Est-ce que l'état de siège n'est pas un peu comme si c'était l'état de guerre? Lorsqu'on est en guerre, on n'attend pas 30 jours pour agir. Le jour où on s'engage en guerre, on déploie tout l'arsenal militaire nécessaire. Les avions se décollent, la logistique est vite envoyée, et au bout de quelques heures, de quelques jours, l'armée doit être pleinement opérationnelle et pouvoir apporter des résultats, non?
Non, mais monsieur le journaliste, la guerre contre qui? Et qui coûte combien? Vous savez que les multinationales qui combattent contre la RDC ont des budgets largement, qui dépassent largement la RDC. Il y a des multinationales qui ont 4, 60, 70 milliards de dollars par an. Vous avez des États aussi et d'autres acteurs jusque-là méconnus qui opèrent à l'est de la RDC. Pensez-vous que le budget de la RDC, si on ne tient pas compte, je ne suis pas opposé à l'état de siège, mais pensez-vous que si nous n'avons pas tenu compte de tous ces facteurs d'identification, de qui combattent contre la RDC à l'est de la RDC, ils sont avec quels sont les types de réseaux qui pratiquement qui s'étissent et qui pratiquement mettent à mal les FRDC, je crois qu'en amont, on aurait pêché déjà, et c'est cela qui montre les bilans largement négatifs qui peuvent être envisagés par rapport aux jours qui viennent. Je ne dis pas que ça va continuer de cette manière-là. Alors, mais si on ne tient pas compte de moyens, lutter, se battre contre un ennemi signifie qu'on puisse avoir suffisamment de moyens. Et les moyens, ce sont des moyens financiers, des moyens militaires, les armes, les munitions et les moyens tactiques, comme le disait le professeur Jacques Joly, parce que si on ne réunit pas toutes ces données pour combattre un ennemi que l'on ne connaît pas, j'ai l'impression que monsieur le journaliste, les FRDC ont affaire à une sorte de nébuleuse et la situation risque de se compliquer davantage.
Alors, Casimir,
c'est des malheurs,
oui,
que c'est ma lecture jusque-là.
Casimir Ngoumbi, oui, on va revenir à vous pour écouter pleinement l'intégralité de votre analyse sur cette question. Mais lorsque, à ce stade, on nous fait écho d'une soixantaine d'éléments des différents groupes neutralisés, de 20 localités qu'on a pu récupérer, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui est réalisé, alors que vous, dans votre analyse, vous parlez quand même qu'il aurait fallu avoir plus de temps et pour que l'état du siège puisse donner des résultats escomptés?
Moi, le résultat tel qu'il s'est fait voir au niveau de l'offensive lancée prouve effectivement que les FARDC ont du terre à l'ouvrage. Je n'en disconviens pas. Je suis totalement d'accord. Mais mon problème est celui-ci. Deux équipes se battent. La première mi-temps peut très bien fonctionner, hein, peut prendre la malaise. Mais quand on commence la deuxième mi-temps, on peut suivre de revers parce que les joueurs sont très bien préparés par l'entraîneur. Vous comprenez? Et donc, pour moi, mon inquiétude, c'est la fin du match. Comment les choses vont se terminer? Étant donné que les FADC ont affaire à une nébuleuse, j'ai l'impression que la chose n'est pas aussi facile que l'on croyait, et que maintenant là, en tout cas, s'il y a de l'énergie nécessaire, il faut soutenir davantage, comme je disais l'autre fois là, aux frontières, les services de sécurité, la mer, la police, les militaires, il y en a qui peuvent se battre sur le terrain, au niveau de front, mais de l'autre côté, aux frontières, il faut qu'on surveille. Mais en même temps, il faut voir dans quelle mesure on peut arrêter, détruire toutes les sources qui ravitaillent en même temps.
Casimir Ngoumbi, l'émission se poursuit. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, avant la fin de cette émission, pour écouter comment vous voyez la suite de l'état d'urgence jusqu'à sa réalisation finale. Nous revenons très rapidement au professeur Joly qui nous appelle de l'étranger et dont la ligne n'est pas très bonne, la ligne qui s'est coupée tout à l'heure. Professeur, je vous relançais en vous faisant remarquer que vous sembliez expliquer que le dispositif de l'état de siège prend beaucoup de temps pour se mettre en place. Même si on a enregistré une centaine de tueries ces jours-ci, lorsque dans le même temps, on enregistre aussi, comme travail effectué par l'armée, une soixantaine d'éléments des différents groupes armés neutralisés et une vingtaine de localités récupérées, plus des redditions. Est-ce que ce n'est pas déjà du très bon travail réalisé malgré que, selon vous, il aurait fallu plus de temps pour avoir de bons résultats?
Non, on ne peut pas, merci beaucoup, on ne peut pas mettre en doute l'efficacité de nos forces armées.
lorsque on analyse les résultats que vous venez de donner, il y a eu effectivement dans l'évaluation des avancées. Mais la problématique de l'état d'urgence, c'est de donner une réponse définitive à ces conflits qui n'a que trop duré. Et comme je disais, en 30 jours, on ne peut pas mettre fin à un conflit qui dure depuis 20 ans. On ne peut pas mettre fin à un conflit qui a des ramifications multiples, à la fois politiques, militaires et même économiques et communautaires. Donc il faut une approche globale. Mais dans cette approche globale, il y a le segment central qui est le segment militaire. Or, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le schéma tactique comme nous avions avant, avec Sokola 2 et les mêmes unités. Nous, dans notre perspective, il fallait un travail d'abord des reconditionnements de troupes, de l'octroi des moyens conséquents, des moyens à la fois logistiques, mais surtout des capacités de frappe. Nous sommes heureux que des hélicoptères de combat sont en train d'envoyer du côté des Bounia. Donc, il faut recalibrer l'effort par rapport, n'est-ce pas, à cet ennemi qui est à intégré, qui a intériorisé, qui a infiltré la région, qui connaît mieux la région. Donc, on ne peut pas mettre en doute les capacités de notre armée, la volonté de faire mieux, mais ici, il s'agit de donner un coup, alors un coup définitif, en mettant en place un dispositif, des unités reconditionnées, requalifiées, mobiles, aptes à frapper sur terre, sur mer. Et ça exige un travail de redéfinition du concept, même des doctrines, pour mettre fin, n'est-ce pas, à ce conflit. Vous savez, il y a l'aspect militaire, dont je viens d'évaluer, mais il y a l'aspect économique. Nous sommes contents qu'on puisse signer des accords avec l'Ouganda, mais il est important que nous puissions voir les ramifications économiques de ceux qui profitent de cette guerre depuis quelques dix années. Il y a des associations communautaires. Donc, il y a toute cette approche globale, mais le temps, à mon avis, n'est pas encore au bilan. Et aujourd'hui, les deux commandements, notamment celui du Nord Kivu, est trop pris dans la question de l'éruption volcanique. C'est une urgence dans l'état de siège. Donc, cet amoncellement des situations crée nécessairement une certaine dyslexie ou des difficultés dans le déploiement, mais je crois qu'il faut continuer à aiguiser l'outil, la pensée et l'action pour aboutir finalement à mettre fin à ces conflits. Il y a cet aspect interne, mais il y a aussi l'aspect diplomatique. Nous avons appris que les troupes ougandaises sont là où nous apportent un apport au niveau de l'enseignement. Donc il faut une approche combinée à la fois interne au niveau de notre armée et des autres aspects politiques et économiques. Il y a des aspects diplomatiques, il faudra associer les armées étrangères qui perdent directement ou indirectement chez nous. Il y a aussi l'apport de la MONUSCO qu'il faut recadrer. Donc c'est un grand travail.
Merci.
Et à mon avis, j'espère qu'il y aura du temps des réunions d'état-major pour reconditionner l'outil et mettre l'outil à la disposition d'une frappe qui doit mettre fin, comme je le disais, à cette affaire. Sinon, on est dans la routine et on va continuer l'opération Sukola. Il y a eu, comme on appelait, Safisa, Sicila, toutes ces opérations qui finalement n'ont pas abouti à mettre fin à cette situation d'insécurité.
Merci Jacques Joly, nous serons aussi avec vous tout à l'heure vers la fin de l'émission pour que vous puissiez aiguiser et détailler avec nous les solutions qui pourraient être mises en place pour renforcer l'efficacité de l'état de siège, mais aussi pronostiquer avec nous à quel moment exactement on pourra mettre fin à cet état d'exception, mais aussi obtenir les résultats attendus. Chaubert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Chaubert Aguenonga, à presque un mois depuis l'instauration de cet état de siège, selon vous, le bilan, à vos yeux, est-il positif, négatif ou plutôt mitigé?
Bien, je serais tenté de dire que le bilan est évolutif, mais néanmoins, je voudrais bien remettre le débat au centre parce que notre émission a une vertu pédagogique et consiste à analyser, à comprendre exactement le paradoxe entre la persistance des massacres dans le territoire de Beni et certainement à Ituri et l'état de siège qui a été décrété depuis le 3 mai dernier. Eh bien, j'ai essayé d'identifier un certain nombre de facteurs qui permet la meilleure compréhension de la persistance de massacres en dépit des mesures, en dépit de l'ordonnance numéro 21/06 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire congolais. Alors, et quelles sont ces variables exactement? Là, je vais souligner le fait que le maillon faible réside au niveau du renseignement militaire. C'est important de souligner. L'on constate sur le terrain que nos forces sont entrées de se battre visiblement avec un ennemi dont on a sur lequel on a que peu de renseignements. Et à cela, je voudrais ajouter la quasi-inexistence des troupes dans les zones en proie aux menaces. Vous avez suivi un honorable député élu de la région, principalement du territoire de Rumu, qui disait sous les ondes de la radio au Kapi que la zone où il y a eu massacre à Ituri, et il n'y avait que 15 militaires seulement, voyez-vous. Mais il y a d'autres incursions qui ont été enregistrées dont les responsables sont les combattants de Codeco dans le territoire de Mahagi. Et là aussi, on a pu constater qu'il y avait l'absence totale des dispositifs sécuritaires. Je voudrais par ailleurs ajouter l'absence d'une coordination efficace entre le commandement opérationnel dans le territoire de Beni et évidemment les unités qui se trouvent dans le territoire de dans la province de l'Ituri. Vous savez que le présumé ADF sont particulièrement actives dans une zone à cheval entre le Nord Kivu et la province de l'Ituri, et là aussi l'on s'aperçoit qu'il y a une faible collaboration entre les unités militaires déployées dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Je voudrais également épingler évidemment l'inadaptation des stratégies à l'œuvre, n'est-ce pas, aux menaces des groupes armés. Et on a comme l'impression que les unités qui ont été déployées sur le terrain utilisent les stratégies conventionnelles face à une guerre asymétrique. Et je vais terminer par la faible collaboration ou la faiblesse d'une approche civilo-militaire. Sur le terrain, il apparaît vraisemblablement qu'il n'y a pas une collaboration efficace entre les militaires et les civils.
Alors, mais comment expliquez-vous alors que, au même moment que vous critiquez plus ou moins les approches appliquées sur terrain, on ait pu quand même avoir des résultats qui ne sont pas les moindres, hein? C'est peut-être, comme je le disais, pas l'objectif visé, c'est l'objectif souhaité par toutes les populations, c'est zéro mort, plus d'assassinats. Avec les failles ou les faiblesses que vous venez de mentionner, pour vous, est-ce que la récupération de certaines localités et la neutralisation de plusieurs groupes armés, c'est l'effet du hasard ou c'est dû à l'action de ces tactiques, même si selon vous, elles sont pas très bien mises en pratique?
Mais nous devons nous mettre d'accord sur le fait que les objectifs de l'état de siège, paradoxalement, à ce que vous soulignez, ne consistent pas à la récupération des localités, mais à la neutralisation des groupes armés. C'est très important, je voudrais le souligner. Les localités peuvent être récupérées pendant que l'ennemi s'est rétracté ailleurs. Voyez-vous, donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est ce qui se passe notamment à Ituri, où l'on s'aperçoit que, par exemple, la circulation est rétablie sur la principale route qui relie la ville de Bunia au territoire de Mahagi où les combattants de Codeco sont particulièrement actifs. Mais ces combattants Est-ce que ils ont cessé d'être actifs? Absolument pas. Ces combattants se sont rétractés, ils se sont repliés, voyez-vous. Donc, il faut absolument que l'approche conduise à la neutralisation de ces combattants. Mais je voudrais quand même partager avec vous une pensée stratégique de l'auteur Clausewitz qui dit que l'objectif de la guerre ne consiste pas à la destruction de l'ennemi, mais à soumettre l'ennemi à sa volonté, mais davantage à détruire la volonté de l'ennemi à combattre, voyez-vous. Donc, l'approche militaire devrait se fonder sur ce que nous appelons « fight and talk ». En d'autres termes, les pressions militaires ont pour objectif, n'est-ce pas, la reddition de tous ces combattants. Mais est-ce que l'approche militaire actuelle tient compte, n'est-ce pas, de la reddition des combattants? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle les pressions militaires devraient s'accompagner d'une brèche laissée aux combattants de se rendre. Et même si ces combattants se rendaient, cela impliquait fondamentalement que l'on dispose, n'est-ce pas, d'une stratégie d'aider. En d'autres termes, il faut qu'on laisse la possibilité à ces combattants, une fois rendus avec leurs armes, qu'ils participent pleinement aux stratégies DDR, RRC. Et j'en profite pour vous rappeler le fait que à Missouri, par exemple, il y a une milice active depuis 2002 qui a accepté de se rendre, c'est la SRPI, et qui a même signé l'accord de désarmement depuis février 2020. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette milice attend impatiemment d'être désarmée. Elle est toujours là. Et en outre, les combattants de Codeco, par exemple, ils ont signé les actes d'engagement au terme desquels ils avaient accepté de se rendre. Donc, il est fondamentalement important aujourd'hui qu'on réfléchisse également sur la mise en œuvre de stratégies d'aider permettant à ce que les combattants qui vont se rendre avec leurs armes soient désarmés, mais aussi réinsérés dans la vie civile.
Merci Chaubert Aguenonga. Écoutons le commentaire de cet auditeur qui nous appelle de Haro.
Jordan Mongo, depuis Haro, dans la province de l'Ituri. Et moi je pense que décréter l'état de siège afin d'amener la paix au Nord Kivu et à Ituri, sans d'abord chercher à connaître qui sont les commanditaires de tous ces groupes armés, c'est nul et sans effet. C'est ainsi que je pense que les préalables pour amener la paix à l'est de notre pays sont, hein, il faudrait d'abord chercher à connaître qui soutient ces groupes armés en armes et munitions, rations alimentaires, médicaments, renseignements, ainsi de suite. Et à deuxième position, il faudrait maintenant arrêter et traduire en justice tous ces commanditaires. Et c'est à la fin qu'on pourra maintenant commencer avec les opérations militaires. Parce qu'à ce moment-là, tous ces groupes armés, tous ces groupes rebelles resteront donc sans soutien et faibles.
Alors, Chaubert Aguenonga, au commentaire de Jordan, j'ajoute aussi cette préoccupation. Comment voyez-vous l'issue de cet état de siège? Il est prévu, en principe, les 30 premiers jours. Ensuite, il peut avoir des prolongations. Les 30 jours, ça sera dans quelques jours. Est-ce que l'État va décider de mettre fin à cet état de siège à ce niveau? Sera-t-il prolongé? Pour combien de temps? Et selon vous, combien de temps faut-il vraiment exactement pour pouvoir retirer cet état de siège en RDC?
Mais, écoutez, nous ne sommes pas en face d'une équation mathématique, en face d'une équation arithmétique. Vous savez, dans le stratégie militaire, on dit souvent que la guerre, le jour où elle commence, et on le sait, mais par contre, on ne connaît pas exactement à quand la guerre peut s'arrêter, voyez-vous. Donc, il est du coup difficile de dire exactement à quand l'état de siège pourra prendre fin, dans la mesure où nous savons clairement que les objectifs assignés consistent à endiguer l'insécurité sur le terrain. C'est exactement comme le disait le professeur Jacques Joly, on ne peut pas prétendre mettre fin à une crise sécuritaire qui a duré pendant plusieurs années et une crise sécuritaire aux racines multidimensionnelles en 30 jours, voyez-vous. Et en plus, l'approche militaire, celle me paraît insuffisante pour apporter des solutions à une crise sécuritaire qui a des racines non seulement militaires, qui a des ramifications extérieures et qui, évidemment, retient une approche diplomatique, une crise qui a aussi des racines sociales à laquelle il faut envisager notamment des solutions d'ordre social, mais aussi une crise qui a des implications politiques, voyez-vous, l'absence de l'autorité de l'État et la faiblesse de l'autorité de l'État qui laisse libre cours, n'est-ce pas, à l'émergence de mouvements subversifs. Donc,
à votre avis, il est possible que l'état d'urgence soit prolongé autant de fois que c'est nécessaire avant que nous puissions voir un peu plus clair dans la situation sécuritaire à l'Est?
Oui, absolument. L'état de siège sera prolongé autant de fois, mais à mon avis, il est important que l'approche à l'œuvre soit accompagnée d'autres approches, non strictement militaires, parce que la seule dimension militaire, à mon avis, paraît insuffisante pour apporter solution à une crise à des racines multidimensionnelles, dès lors que nous savons la sécurité est la résultante d'une approche holistique, d'une approche globale.
Merci, professeur Chaubert Aguenonga. Puisque sa communication est difficile avec Kinshasa, nous allons essayer d'aller directement auprès du professeur Joly. Professeur, pour vous aussi, ce commentaire qui nous vient de Moïse Malangu.
C'est monsieur Moïse Malangu de Pindjimaï. Les problèmes de la sécurité dans l'Est de la RDC reste un problème parmi les épineux. Nous voudrions savoir, c'était avant l'état de siège qu'il y avait des massacres. Maintenant, pendant l'état de siège, la situation s'empire. Que le gouvernement nous dise un problème de logistique ou soit les dispositifs militaires en place ne parviennent pas à couvrir la sécurité de la population de ces coins-là. Parce que on ne parvient pas à comprendre dans tout un village ou deux que les rebelles puissent entrer et puis massacrer les gens en désordre dans moins d'une semaine, plus de 50 personnes. C'est inconcevable, ça. Nous voulons au moins être éclaircis et puis qu'on sache depuis l'état de siège quels sont les résultats déjà escomptés. Ou soit on reprend l'administration civile parce que l'administration militaire est en train de trouver ses failles avant même deux mois ou même un mois même.
Merci, professeur. Pouvez-vous répondre notamment à la préoccupation de Moïse, celle de savoir comment les rebelles sont régulièrement plus efficaces et arrivent à contourner l'armée nationale malgré tous les dispositifs qu'on met en place. Et aussi cette question avec laquelle nous allons terminer avec vous aussi, comment envisagez-vous la suite de l'état de siège?
Bon, d'abord, premièrement, il faut dire que les rebelles qui sont dans cette zone déploient ou sont tentés d'opérer dans une approche asymétrique, comme l'a dit un des intervenants. C'est une guerre non conventionnelle. Alors, sur ce point-là, il est important de comprendre que ce n'est pas en 30 jours qu'on va mettre fin, comme je l'ai dit, à une guerre qui dure durant 30 jours. Mais cela ne doit pas nous amener à avoir une approche purement défaitiste. Au contraire, l'état d'urgence, c'est une posture constitutionnelle et juridique qui doit nous amener à avoir une approche holistique ou globale qui permettra de mettre fin à cette guerre. Approche politique, parce qu'il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État. Il y a des villages, des secteurs qui n'ont même pas des policiers, qui n'ont même pas la présence d'une autorité. Donc, il faut une approche politique administrative.
Il nous est arrivé plusieurs fois de connaître ce problème de coupure des téléphones. Le professeur Jacques Joly nous appelle de Trelin. Merci à lui d'avoir participé quand même à cette émission. Et nous enchaînons la parole donnée aux auditeurs avec, pour Casimir Ngoubi, c'est cet auditeur qui nous appelle de Bukavu.
Emina Mwanda Asani Kangolingoli depuis la ville de Bukavu au Sud-Kivu. Pour et la détermination des frères de ces, se démarquer à travers ce bilan qui montre un certain sentiment du patriotisme, néanture plus de 60 de groupes et milices armés illégaux dans une période de moins de mois est une bonne chose, mais la meilleure des choses est d'en finir une fois pour toutes avec cette situation d'insécurité qui endeuille plus d'un Congolais du jour au lendemain. Le bilan si présenté est jusque-là positif, d'autant plus que la paix privée aux habitants de Beni, de Djougou et Anituri, au Grand Nord, ne pourrait point se rétablir à un seul moment comme de la magie. Mais il faut un minimum du temps, paix soit-il.
Voilà, professeur d'université, politologue, expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés, Casimir Ngoumbi, cet auditeur a plus ou moins eu la même analyse que vous tout à l'heure. Alors, que pouvez-vous ajouter à son commentaire, mais aussi, quel est le pronostic que vous avez de cet état de siège?
Oui, je crois que je suis de son avis. C'est vrai que les FARDC se battent. C'est FARDC que je connais très bien. Il y en a qui ont été formés dans des grandes écoles de la planète et qui ont véritablement du cœur à l'œuvre. Mais la question qui me pose est sur le plan financier. A-t-on pensé vraiment, le gouvernement république vraiment augmenter cette prime pour beaucoup plus de motivation? Je ne sais pas. Du point de vue de renseignement, comme le disait un des co-débatteurs, est-ce que les renseignements viennent suffisamment au secours des FARDC qui sont sur le terrain? Et sur le plan de la socialisation rapide des populations, est-ce qu'on a pensé à quelque chose? Parce que nous apprenons qu'à Nitouri, par exemple, les populations, les miliciens qui fouillent, entre guillemets, confondus aux populations ou les populations qui fouillent, lorsque on regarde dans les sacs qu'ils portent, il y a des armes avec lesquelles ils fouillent. Donc il y a quelque chose de fou au niveau des populations qui, pratiquement, devaient travailler en connivence avec les FARDC. C'est là que je pense tout de suite à la sanction. La cour doit continuer à faire son travail pour identifier les traîtres, afin que les FARDC se sentent de plus en plus motivés pour traquer les groupes armés.
Merci, professeur. Mais très rapidement, voyez-vous l'état de siège se prolonger une fois, deux fois, plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, avant qu'on arrive au bout de l'objectif recherché qui est zéro mort désormais dans ces provinces?
Mais je le vois une, deux, trois, quatre, je peux même aller à cinq, hein, parce que je sais que nous sommes en train d'aller avec une approche qui devait pratiquement être considérée dans les longs tailles, les longs temps, comme si cela était comparé à une approche de quelques jours, 30 jours. Et donc, étant donné qu'en amont, les choses n'ont pas été préparées, entre guillemets, comme il se doit, j'ai l'impression que ça ne suffira pas. 30 jours ne suffiront pas, on ira au-delà des 30, 60, pourquoi pas 90 et au-delà, et ça dépendra de ce que le gouvernement prendra comme mesure. Mais en même temps, n'oublions pas que la priorité, ce n'est pas seulement la traque. Vous savez, nous avons reçu bien entendu la leçon de la nature avec l'éruption volcanique de Goma, que à côté de groupes armés qu'il faut traquer, l'État y siège, nos amis, nos frères de Goma souffrent, le gouvernement doit chercher des moyens pour les soutenir, mais en même temps, le même gouvernement doit payer les salaires des fonctionnaires pour éviter aussi de ce côté-là qu'il y ait des remous. Bref, les priorités sont nombreuses, nous sommes là en face d'une crise de légitimité parce que le gouvernement se trouve en face d'une complexité de problèmes face auxquels il faut trouver une solution. Malheureusement, les moyens sont défauts.
Merci, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés, Casimir Ngoumbi. Merci au professeur Jacques Joly, député national et ancien vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Et enfin, Chaubert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani. Dieudonné Nyangasa, Wanyangasa et Guimaté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.